Alors c'est dans cette ouverture à soi-même, que nous accueillons le chariot blanc, ce véhicule de supraconscience qui vient simplement nous refléter cet état de conscience dans lequel nous sommes également.
Bienvenue à vous-même, André.
Merci. Alors ce soir, comme thème, lors de cette conférence, nous avons m'aimer au travers d'épreuves. Est-ce vraiment une nécessité?
Pour le moment, nous vous raconterons un petit commentaire d'ouverture qui vous fera comprendre pourquoi nous avons répondu pour le moment. Un jour, sur le flanc d'une colline, il y avait un petit mouton qui s'était égaré du troupeau. Il l'avait fait volontairement. Ce jour-là, il voulait causer avec le renard à qui il avait donné rendez-vous, car tous les deux, ils avaient entendu le même son. Lorsqu'ils furent ensemble, le renard dit au mouton, « Tu es certain que toi aussi, tu as entendu le flûteau ?»« Ah, je ne rêve pas, dit le mouton. Je suis certain, même si les autres moutons autour de moi ne savaient pas ou n'entendaient pas. » Dans quelle direction as-tu entendu? Là-bas, sur l'autre versant de la montagne. Et tu es prêt à faire tout ce chemin, dit le renard. Ah oui, je suis prêt. Il paraît que mon arrière-grand-père racontait déjà qu'il y avait un berger qui jouait du flûteau. Alors si la chance m'était donnée de le voir, oh que je serais heureux. Moi aussi, j'ai entendu raconter l'histoire, depuis très longtemps, semble-t-il. Alors, allons ensemble. Et le mouton et le renard contournèrent la montagne. Et tout à coup, sur une immense pierre, ils virent là un petit berger qui jouait de son flûteau. Ils s'approchèrent discrètement pour ne pas déranger. Mais le berger de dos les avait vus et il leur dit, « Ne vous inquiétez pas, vous pouvez approcher. » « Tu joues de ton flûteau ?» lui dit le petit mouton. « Je joue de la conscience et de l'amour, » répondit le berger. « Et pourquoi fais-tu cela ?» interpella le renard. « Eh bien, regarde en bas. » « Mais qu'est-ce que c'est ?» dit le renard. « Ce sont des humains. Mais que font-ils là ? Et qu'est-ce que des humains ? Ce sont des êtres endormis. Tu vois, ils sont là, couchés les uns à côté des autres, et ils dorment. « Est-ce qu'ils dorment depuis longtemps ?» dit le mouton. « Depuis des millénaires, et des millénaires encore. » dit le jeune berger. Et toi, tu joues du flûteau depuis quand? Depuis tous ces millénaires, dit le berger. Et tu n'es pas fatigué? La conscience et l'amour ne se fatiguent jamais, de reprendre le berger. Et jusqu'à quand joueras-tu? Jusqu'à ce qu'il s'éveille. Et alors, tout à coup, le renard dit, est-ce que tu crois qu'ils s'éveilleront bientôt? « Le temps n'a pas d'importance pour moi, » dit le berger, et il reprit son flûteau. Tout à coup, le renard sursauta, et il dit au berger, « Regarde de là-bas, je te jure que j'en vois un qui est en train de bouger. » Alors, l'heure du verseau est arrivée, dit le jeune berger, « Je suis heureux. » Il regarda, véritablement, un homme avait bougé. Lentement, s'assoyait, s'étirait et regardait autour de lui cette mer d'humains endormis. Il se demandait bien ce qu'il faisait là. Puis il se leva debout et discrètement, en prenant soin de ne blesser personne, il s'approcha. Il dit au berger, « Mais où suis-je ?»« Tu es dans l'éveil, lui dit le berger. Mais que c'est beau l'éveil ! As-tu vu le ciel et les arbres et les fleurs et la montagne et tout cela qui est si joli ?»« Bien sûr, dit le berger, j'ai vu. Moi aussi, dit le renard. » Faisant signe parce qu'il voulait être vu. Alors l'homme dit au berger, « C'est étrange, ici il n'y a pas de guerre ?»« Non, dit le berger, la guerre est chez ceux qui dorment. Tu vois, les humains, ils dorment et ils rêvent que la souffrance existe. Alors, ils créent la souffrance, ils créent la douleur, ils créent la haine et la guerre, ils créent la mort et le viol, ils créent toutes sortes de catastrophes. Et pourquoi font-ils cela ? Parce qu'ils dorment, dit le berger. Et pourquoi dorment-ils ? Ils dorment à cause de leur mental, à cause aussi de leur ego divisé. Le petit ego étant divisé, leur montre le monde divisé. Donc s'ils sont dans la division, il doit y avoir la guerre pour rechercher la paix. Il doit y avoir l'impatience pour chercher la patience. Il doit y avoir la mort pour trouver la vie. Et alors, il se crée toutes sortes de réalités. Ils se heurtent à l'intérieur de leur propre énergie jusqu'à ce qu'ils s'éveillent. Est-ce que c'est le seul chemin, dit l'homme? C'est un chemin bien douloureux. Non, dit le berger, il y a un autre chemin. C'est celui qui sera connu par le verseur d'eau. Qui est le verseur d'eau? C'est l'homme éveillé. Et l'homme éveillé connaît le chemin de l'amour et de la conscience. Et dans le chemin de l'amour et de la conscience, il n'y a plus de ces faux rêves. Il n'y a plus de cette douleur et de cette haine. Il y a l'envers de tout ce qui a été connu par les humains. Est-ce qu'ils dormiront encore? Dit l'homme. Non, dit le berger, parce que toi tu t'es éveillé. Observe bien, d'ici quelques moments, il y en aura trois autres qui s'éveilleront. Et pourquoi trois? Parce que c'est la loi fondamentale, dit le berger. Alors tous se turent et se mirent à regarder. Et de fait, là, de ci, de là, il y avait trois hommes qui commençaient à bouger, à se lever sur leur siège, à s'étirer pour savoir où ils étaient, à regarder autour d'eux, à se lever et à venir vers le son du flûtiot. Et alors, ils posèrent la même question. « Il n'y a pas de souffrance ici ?»« Non, dit le berger, puisque vous êtes éveillés, la souffrance appartient à ceux qui dorment. » Alors, comment feront-ils pour sortir du sommeil ? Ils en sortiront parce que vous en êtes sortis. Il y en aura 9 dans quelque temps qui se lèveront, et ensuite, ces 9 se multiplieront par 3, et ensuite les 27 par 3, et ainsi de suite, et ils s'éveilleront, s'entrechoquant les uns les autres. Et si vous, vous jouez du flûtiot de votre conscience et de votre amour, alors la terre tout entière s'éveillera. Tout à coup, le berger se pencha. L'agneau était appuyé contre le renard. Et de grosses larmes coulaient des yeux du renard. Il dit à l'agneau, « Je croyais que c'était un conte, mais voilà, nous sommes devant la vérité. » « Oui, dit l'agneau, il valait bien la peine de contourner la montagne. » Et alors les hommes, qui s'éveillaient les uns après les autres, se reconnaissaient. Ils se reconnaissaient et ils cessaient entre eux de créer les guerres et les haines. Et alors, le jeune berger dit, « J'ai encore quelque chose à dire avant de vous laisser la place, car maintenant, je dois disparaître. » Alors il leur dit, « Vous savez, peut-être que le sommeil vous interpellera. Vous saurez que vous êtes dans le sommeil lorsque vous projeterez sur vos frères tout ce qui est au-dedans de vous. Et pourquoi est-ce que le sommeil nous guette? Parce que la souffrance est profonde chez l'être humain. Il y a là une plaie aiguë et très profonde. Elle est un abîme et l'homme est tombé dans l'abîme de sa douleur. Et qu'est-ce qui a causé l'abîme? Dit le petit mouton. C'est que l'homme n'a pas cru que l'amour existait, donc il ne savait pas qu'il était amour. Depuis des millénaires, il mendie l'amour, il mendie l'affection, il mendie la tendresse, il mendie la conscience, il mendie tout parce qu'il ne sait pas qu'il n'est pas un mendiant. Alors les hommes se resserrèrent ensemble et se mirent à chanter le mantra « Je suis celui qui est » et tout se dissout en lui. Alors ils dirent « Et le sommeil des hommes se dissolvera. » Bien sûr, dit le berger, puisque l'heure du Verseau est venue. Ce n'est pas par hasard que nous vous donnons ce soir ce commentaire. C'est que vous preniez du temps pour le méditer et pour regarder que vous êtes l'auteur de votre réalité, que vous êtes l'auteur de votre souffrance, que vous êtes l'auteur de la mort, que vous êtes l'auteur de la haine et de la jalousie et de cette profonde douleur qui est en vous. Et la seule façon de pouvoir vous guérir de tout ce monde d'illusions est de cesser de créer cette réalité divisée. Il n'y a qu'un seul moyen, et c'est celui d'habiter cette souffrance, d'aller jusqu'au fond de cet abîme, d'accepter de connaître cette plaie qui est en vous, car c'est elle qui contient le médicament qui vous fera en sortir. L'amour est à l'intérieur de cette plaie. C'est l'amour que vous avez eu pour vous-même de créer cette réalité pour expérimenter la matière et expérimenter la division. Mais il y a déjà bien des millénaires que vous êtes sur ce chemin et maintenant vous avez le choix de l'amour et de la conscience qui vous permettront de sortir de ce mauvais rêve, de devenir des éveillés, des éveilleurs, des verseurs d'eau. Et c'est ce que nous souhaitons à chacun d'entre vous.
Que veut dire au juste habiter la souffrance? C'est possible de nous en parler davantage parce que nos mémoires nous ramènent. Est-ce que cela veut dire de souffrir et de se torturer encore et encore?
Mais pas du tout. Habiter la souffrance est descendre si profondément dans la souffrance qui vous habite pour voir qu'elle n'a jamais existé et qu'elle est une illusion, est une création de votre ego divisé. Lorsque vous aurez compris ceci, vous comprendrez que la souffrance n'existe pas, qu'elle n'existe que parce que vous la recréez sans cesse. Mais si vous l'habitez, vous verrez qu'elle est illusion. Mais direz-vous dans la matière, comment peut-on habiter la souffrance? Habiter la souffrance, c'est d'abord accepter d'en être le spectateur au lieu d'en être la victime. Imaginez, par exemple, que vous vivez avec quelqu'un qui a pour vous du mépris. Ce mépris ou ce rejet ou ce manque d'attention peut créer à l'intérieur de vous une souffrance. Si vous vous nourrissez de cette souffrance, et que là vous projetez sur celui qui est en face de vous, d'être l'objet et le sujet de votre souffrance, que c'est de sa faute, que c'est lui qui a créé cela, et que vous ne ramenez pas à vous cette création. alors vous prolongerez cette souffrance. Mais si vous êtes capable de regarder celui qui est en face de vous et qui est votre création, dont vous êtes le véritable créateur, et qui, quelque part, n'a pas de respect pour vous ou a pour vous du mépris selon votre regard, alors dites-vous, je comprends que cet être qui est là devant moi vient me montrer où je me méprise. Et alors, vous reviendrez vers vous-même et vous deviendrez spectateur de vous-même. Vous verrez où, quelque part, dans une certaine partie de vous-même, soit dans votre corps émotionnel, ou votre corps physique, ou votre corps mental, ou vos réactions, ou votre comportement, ou vos comportements répétitifs, où vous êtes juge pour vous-même, où vous vous méprisez vous-même. Alors, vous aurez pris cette création, vous l'aurez ramenée à l'intérieur de vous, et vous verrez que cette projection est une illusion. C'est un effet de miroir et rien d'autre. Et c'est le mental qui crée cela. Car le mental, il est devenu fou à force d'avoir participé à cette création et avoir créé à l'intérieur de milliards et de milliards et de milliards de cellules ce langage de la douleur et de la souffrance. Alors, si vous, en accueillant à l'intérieur de vous cette réalité, en voyant que vous êtes endormi et que c'est à cause de cela que vous créez dans votre rêve que vous souffrez, vous serez celui qui pourra décider de façon intuitive, mais aussi de façon volontaire, d'arrêter cette souffrance, puisque vous en êtes le créateur.
Est-ce que l'épreuve n'égale pas une expérimentation? Si oui, ne faut-il pas la reconnaître?
Et l'accueillir aussi. Vous avez bien raison. Il faut la reconnaître et il faut l'accueillir parce que c'est le chemin que l'être humain a choisi. Il n'en a pas choisi d'autre puisque quelque part son mental inférieur n'avait rien d'autre à lui présenter et que son ego divisé multipliait cette création. Mais nous vous dirons que le temps est venu maintenant de sortir de cette voie ou de cette forme initiatrice. Vous pouvez désormais vous initier par la conscience et par l'amour au lieu de vous initier par la souffrance et par la douleur. Mais sachez bien que dans les temps présents et pour les 2 années qui viennent, il y a compression, car votre sagesse qui vous conduit vers cette ère du Verseau, vers cette conscience nouvelle, vers ce règne de la sérénité et de la paix, qui n'est pas une fausse paix et une fausse promesse de la sérénité, mais véritablement un grand bond de conscience pour la race humaine. Alors, nous vous dirons, pendant ces 2 années qui viennent, il y aura une grande compression. Cette compression aura pour objet de vous faire naître à vous-même, exactement comme les contractions de la femme qui doit donner naissance à l'enfant. Alors, donnez naissance en vous-même à ce berger verseur d'eau.
Plus je me libère de l'extérieur, plus mes épreuves me retournent à moi et à mon enfance. Alors, comment me guérir de mes blessures d'enfance?
Nous vous dirons d'abord de poser cette question est une grande preuve de maturité. Vous avez véritablement compris ce qu'il fallait comprendre. Nous vous dirons 99,9% de la population humaine a vécu des traumatismes d'enfance. Ne serait-ce que les traumatismes que l'enfant vit lorsqu'il est dans le ventre de sa mère et qu'autour de lui, il y a tout ce tapage, ces bruits, ces guerres, ces souffrances, ces douleurs, ces inquiétudes, ces doutes, tout cela, il en reçoit la résonance. Et comme il est très fragile, il reçoit multiplié à l'infini cette force. Ensuite, lorsqu'il vient, il ne vient pas toujours dans un milieu de grand accueil. Nous parlons actuellement du milieu hospitalier qui commence à se raffiner davantage, mais qui, quelque part, était un milieu très difficile pour l'enfant. L'enfant qui naît, qui était dans un lieu avec une température régulière et toujours très confortable, qui arrive dans une pièce où c'est froid, où les mains du médecin et de l'infirmière qui le reçoit sont des mains froides, où il a été dans l'obscurité pour protéger son regard, où il arrive dans une pièce où il y a de grandes lumières, où ensuite on lui coupe le cordon ombilical, le séparant trop rapidement de sa mère, l'emmaillotant et le mettant dans une pièce hors du contact de sa mère. L'enfant, lorsqu'il est tout petit, il a besoin d'une façon absolue, non pas d'une façon temporaire, mais d'une façon absolue du toucher de sa mère, car il doit, pour être capable de créer sa propre réalité, apprendre à respirer par lui-même, développer l'autonomie de son être. Il a d'abord besoin de connaître sa mère, de la connaître très bien, d'être touché, de connaître son père, de connaître l'affection des êtres qui l'entourent. Mais souvent, trop rapidement, ils sont remis à des étrangers et nous vous dirons dans les milieux hospitaliers, il y a là de grandes souffrances. Nous vous dirons que de plus, lorsque vous naissez, il se peut que votre père et que votre mère, qui ont accepté dans un autre niveau de conscience, peut-être même sans le savoir, d'être le gabarit et nous dirons le blueprint de ce que vous êtes venu faire sur le plan terrestre, alors dès le départ, il vous donne dans la vibration, même biologique, il vous donne l'image de ce que vous êtes venu transformer à l'intérieur de vous. Lorsque vous dites « J'ai la conscience maintenant que la blessure est à l'origine », là vous avez raison. Elle est à l'origine, à la naissance, au premier moment passé avec vos parents, à l'attitude des parents face à vous, des frères, des sœurs, ensuite du milieu qui s'élargit, qui devient l'école, ensuite de la société qui fait mille promesses de compétition et qui vous amène presque dans l'enfer. Alors nous vous dirons, retournez à cette enfance, habitez cette enfance, car c'est là le lieu de l'illusion parfaite. Car vous ne saviez pas, à ce moment-là, lorsque vous êtes né, que vous étiez l'amour et la conscience. Alors l'amour ne peut pas mendier l'amour lorsqu'il sait qu'il est l'amour. La tendresse ne peut pas mendier la tendresse si elle sait qu'elle est la tendresse. Le soleil ne mendie pas la lumière parce qu'il a la conscience qu'il est le soleil. Alors, en retournant dans cette blessure, vous verrez l'illusion d'attendre de l'extérieur cet amour, cette tendresse, cette bonté, cette vérité, cette conscience.
Par rapport à l'enfance, il y a une question ici. Ma venue au monde a été jumelée à une annonce de deuil. J'aimerais savoir ce qui est arrivé exactement entre ma sœur et moi. C'est signé Jean-Pierre Beaumont, de Beaumont.
Alors, nous vous dirons, cher Jean-Pierre, que si dès votre naissance, vous avez été séparé d'une partie d'un être qui a cohabité avec vous dans le sein de votre mère, ceci a créé un grand traumatisme. Et ce traumatisme peut vous montrer comment vous étiez divisé à l'intérieur de vous entre le féminin et le masculin. Prenez du temps, observez toutes ces divisions féminines et masculines à l'intérieur de vous et sachez que cette rupture a été un grand cadeau parce que quelque part toute votre vie vous avez cherché ce que vous pensiez être votre sœur, mais ce que nous vous dirons être le féminin, qui est une vibration nouvelle qui, avec l'air du Verseau, est en train de s'éveiller de manière magnifique dans la race humaine. Nous ne disons pas dans la charpente homme ou la charpente femme, mais nous disons dans la race humaine. Alors ce que vous avez cherché, c'est l'anima, c'est celle qui fait vivre, c'est la partie en vous qui est intuitive, qui est créatrice, qui est réception, qui est accueil, qui est tendresse et qui est amour. Alors nous vous dirons, ce n'est pas par hasard que vous avez créé cette réalité, vous l'avez créée pour vous montrer ce que vous cherchiez véritablement au-dedans de vous, qui est l'anima.
En continuant cette question, c'est possible de nous parler davantage des épreuves reliées au deuil ou à la mort?
Certainement. D'abord, nous vous dirons, lorsqu'il y a un deuil, les gens pleurent. Ils sont tristes. Et ils croient qu'ils sont tristes à cause de la personne qui est partie. Mais ils ne sont pas tristes à cause de cette personne. Ils sont tristes à cause d'eux-mêmes. Ils pleurent sur leur propre peine. Ils pleurent sur leur propre douleur. Nous vous dirons, que savent-ils du choix de celui qui est parti? Car la mort, c'est un pas vers une autre étape de conscience. Alors que savent-ils de la joie ou de la sérénité de celui qui est parti? Alors nous vous dirons, lorsque vous pleurez à cause d'un deuil, c'est que vous ne savez pas véritablement que la mort contient la vie et qu'au fond, la mort, c'est un mensonge. Ça n'existe pas. C'est uniquement un changement de véhicule. Lorsque vous décidez de faire un voyage, que vous prenez l'avion à Mirabel, que vous arrêtez à Paris, mais que votre destination est la Belgique, que devez-vous faire? Vous devez changer de véhicule. Est-ce que vous êtes moins dans le voyage? Est-ce que vous avez changé de conscience? Mais pas du tout, vous avez seulement changé de véhicule. Alors la mort, telle que vous la percevez ou vous la voyez, ce n'est qu'un changement de véhicule et nous vous dirons, non pas de véhicule physique, mais de véhicule de conscience pour toujours accéder à une conscience plus grande. Alors, la mort véritable n'existe pas. Et lorsque vous pleurez sur vous-même. Et votre deuil, c'est de vous croire séparé de la personne qui est partie. Parce que cette personne, vous en avez le contact uniquement à cause de vos sens. Mais lorsque cela dépasse vos sens, vous croyez que c'est terminé. Alors qu'il y a des gens qui sont partis, qui sont beaucoup plus proches de vous qu'ils ne l'étaient lorsqu'ils étaient visibles.
Quelle est la sagesse d'avoir créé l'épreuve?
La sagesse d'avoir créé l'épreuve, c'est d'avoir expérimenté la matière et la densité de cette matière. Nous vous dirons, cela ne pouvait pas se faire autrement. Vous ne pouvez pas demander à de la vapeur de devenir de la glace sans qu'il y ait condensation et sans qu'il y ait une vibration énergétique plus dense. Alors, il en est ainsi pour la race humaine. L'humain a créé le mental inférieur. Il a créé l'émotion. Il a créé le gabarit physique. Et une fois à l'intérieur de cette expérimentation, il a oublié qu'il était venu expérimenter. Et c'est là qu'il s'est endormi dans la douleur, dans la souffrance, dans la guerre et enfin dans le grand cauchemar millénaire de la race humaine. Mais ceci était nécessaire et nous le répétons, c'est au fond de la plaie que se trouve le lieu de la résurrection. Et lorsque nous parlons de résurrection, nous parlons d'amour et de conscience.
J'ai travaillé très fort pour faire grandir mon estime de moi. J'ai un patron qui en a très peu et j'en vis les conséquences même si j'essaie de lui laisser ses jugements et préjugés. Que puis-je faire pour
pour me renforcer et arrêter d'avoir un point dans le dos.
Alors, nous vous dirons que le point qui vous pousse dans le dos, c'est quelque part votre conscience qui vous dit de vous détacher de l'ego. Peu importe que votre patron ait un grand estime ou un petit estime de vous, ou qu'il croit que vous êtes une fourmi, est-ce que vous croyez que ceci change le Dieu que vous êtes? C'est son regard, laissez-lui. Et vous, vous êtes d'une grande sagesse de vous créer cette réalité, car cette réalité, elle peut vous permettre, si vous utilisez cette souffrance, car la souffrance est utilisable, elle est recyclable, alors si vous utilisez cette souffrance, elle vous permettra de devenir neutre, de ne plus être atteinte par ce qui est extérieur à vous. Et nous vous dirons, la partie de vous qui est atteinte, c'est votre ego malade. Alors prenez soin de cet ego pour qu'il puisse un jour être absorbé par le grand soi. Dites-lui que vous n'avez pas à le condamner, que vous n'avez pas à le juger, que quelque part vous avez construit votre individualité.
Alors, la prochaine question. Le bonheur se réalise dans plusieurs petites choses de la vie. Je suis satisfaite de ce que j'ai, tant au point matériel qu'affectif. Je suis heureuse. Pourriez-vous commenter sur le fait que j'en veuille toujours plus et que j'ai souvent le sentiment qu'il me manque quelque chose, qu'il n'y a plus de possibilités, etc.?
Alors, cessez de chercher le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Ça n'existe pas, le bonheur. Ce qui existe, c'est la conscience. Et ce qui existe, c'est l'amour. Tout le reste, nous vous dirons, vient poser des petits diachylons sur les blessures. Et là, pendant que le diachylon est là, vous dites, je suis heureuse, je ne vois pas la plaie. Mais la plaie, elle vous interpelle parce qu'elle a besoin d'être guérie. Alors nous vous dirons, acceptez d'aller jusqu'au fond de vous-même. Ce manque dont vous parlez, ce vide, cette absence, absence d'amour, absence de tendresse, absence de confiance, nous vous dirons que tout cela réside dans la conscience. Plus vous deviendrez conscient et spectateur, nous disons bien spectateur de ce que vous accomplissez, témoin de ce que vous accomplissez, alors au lieu d'être dans la douleur, vous verrez sur un écran passer cette douleur. Vous verrez quelle est votre création, mais au lieu de vous y attacher, vous l'aurez projetée à l'extérieur de vous, non pas rejetée, mais projeté à l'extérieur de vous, étant ainsi capable de voir que c'est une illusion, comme lorsque vous regardez votre télévision. Il y a des personnages qui vous apparaissent très vrais, mais si vous vous levez debout et que vous allez toucher la vitre, vous allez bien voir que c'est une illusion, que vous ne pouvez pas toucher le personnage, que le personnage est ailleurs, dans un studio, et que l'image qui est là vous vient par des ondes, alors nous vous dirons, soyez spectateur de ce qui se passe dans votre vie. Commencez à reconnaître que tout cela est illusion. Et là, vous apprendrez progressivement à fermer la télévision de vos douleurs, de vos souffrances, de vos angoisses, de vos manques, de vos vides. Et vous serez capable d'entrer au-dedans de vous et d'écouter dans le silence, l'appel à cette conscience et à cet amour. Et alors, vous reconnaîtrez le verseur d'eau, il vous fera signe, vous entendrez son flûteau. Il vient, il est très proche.
Pardon. Quand nous sommes vraiment au cœur d'une douleur ou d'une souffrance ou à l'intérieur d'une épreuve quelconque, comment se mettre vraiment sous le canal de l'amour et de la conscience alors que nous sommes embourbés par les autres énergies citées?
Alors, nous vous dirons d'abord en acceptant d'aller dans le silence avec cette douleur et avec cette souffrance. C'est la seule manière où vous pourrez la reconnaître et l'asseoir en face de vous. Parce que cette douleur et cette souffrance, elles viennent vous apprendre la conscience et l'amour. Elles viennent vous apprendre vos illusions. Elles viennent vous apprendre la mainmise de l'ego sur vous. Et nous vous dirons, si vous acceptez d'aller dans le silence, d'essayer de comprendre le pourquoi de votre création, qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'au cœur de cette douleur, jusqu'au cœur de cette souffrance, alors vous trouverez dans la souffrance elle-même la guérison. La guérison est dans la plaie. La plaie, c'est comme le remède homéopathique qui contient en soi la guérison. Mais pour cela, il faut accepter de faire silence et de descendre au-dedans de vous-même. Vous en sortirez neuf, victorieux, revigorés, instruits, régénérés et sages.
Quelle est la limite de notre libre choix?
Il n'y a pas de limite, à part celle que vous mettez vous-même et celle que la société vous met aussi. Mais la société, si vous n'en faites pas une projection et ne la mettez pas extérieure à vous, vous allez voir quel est le reflet des limites que vous vous mettez vous-même. Nous vous dirons, vos limites sont causées par vos peurs. Et vos peurs sont causées par vos manques. Et le plus grand manque, nous dirons, la plus grande peur, c'est la peur du manque. La peur de manquer d'amour, de manquer de considération, d'appréciation, de manquer d'argent, de manquer d'un conjoint, de manquer d'une maison, de manquer d'une voiture, de manquer de ceci, de manquer de cela et de manquer de tout.
Et même de manquer de vie.
Exactement. De manquer de santé, de manquer. Alors nous vous dirons, allez vous asseoir avec votre peur. Votre peur contient un antidote.
Alors vivre au présent, comment justement vivre au présent quand que le désir est là, mais que les pensées sombres de ce que j'appelle les petits diables ne cessent de parler. Ceci est très demandant, épuisant, je dirais. Mon désir est de vivre... Mon Dieu.
Nous avons compris, André.
Je ne peux pas lire la balance.
C'est parfait. Alors, nous allons vous dire que vous voulez vivre au présent, mais que vous êtes affublé par le passé et le futur. Vous avez un pied dans le passé qui vous ramène des multitudes de mémoires et qui vous dit, si tu fais ceci, si tu fais cela, souviens-toi, c'était comme ceci, c'était comme cela, ça brûle, ça fait mal, c'est comme... et ainsi de suite. Et ensuite, vous vous dites, mon désir. Votre désir, il vous projette dans le futur. Il n'est pas là, dans le présent. Le mot désir n'est jamais dans le présent. Le mot être est dans le présent, mais le mot désir est dans le futur. Alors, vous avez un pied dans le passé et un pied dans le futur. Comment voulez-vous jouir du présent? Jouir du présent, c'est la chose la plus simple au monde, mais c'est la chose la plus compliquée pour le mental. Car le mental, lui, il ne veut surtout pas vivre au présent, sans quoi il perdrait son règne. Vivre au présent, c'est être là, en train d'écouter une conférence, voir ce qui se passe dans votre corps, voir ce qui se passe dans votre cœur pendant cette conférence, voir si vous avez chaud, si vous avez soif, si vous avez faim, si vous êtes bien ou si vous êtes moins confortable. Et là, vous êtes dans le présent. Vous n'êtes pas en train de créer quelque chose, vous êtes tout simplement en train de vivre ce qui est là. Après quoi vous sortirez, vous aurez à conduire votre voiture. C'est simple, le présent vous demandera de conduire au mieux votre voiture et d'être présent à vous-même le temps où vous conduisez cette voiture. Alors à ce moment-là, vous êtes dans l'amour et dans la conscience et rien ne peut vous déranger parce que vous n'êtes appliqué qu'à être en contact avec vous-même dans ce que vous vivez, dans le moment qui est là. Ceci est un exercice cependant, parce qu'il y a tellement longtemps que le mental règne sur vous. Il est devenu fou, le mental des hommes. Il est devenu fou parce qu'il ne peut plus capter toutes les images qui sont autour de lui et tous les sons qui l'entourent. Allez dans la grande ville, écoutez le bruit, nous vous dirons, c'est le mental. Regardez toutes les affiches, regardez toutes vos annonces à la télévision qui viennent couper, couper et couper sans cesse l'émission que vous êtes en train de regarder et sur laquelle vous êtes fixé. Eh bien ça, c'est l'image de votre mental qui amène toutes sortes d'images qui vient vous interrompre et qui vient vous couper du présent. Et lui, il a tout avantage à vous couper du présent. De cette façon, il peut régner. Mais vous, vous avez tout avantage à être dans le présent. Ainsi, vous pouvez régner.
Si nos maladies sont l'œuvre de notre création, comment faire pour se guérir et se libérer des croyances et des pensées qui ont donné naissance à ces maladies?
Nous vous dirons d'abord, les maladies ne naissent pas dans le corps physique. Elles naissent d'abord et avant tout, presque toujours, dans le corps émotionnel et dans le corps mental. Et alors, c'est dans le corps émotionnel et le corps mental que vous devez chercher la racine. Si vous cherchez dans le corps physique, là, vous ne voyez que le symptôme. Mais derrière ce symptôme, il y a une cause. Et derrière cette cause, il y a des émotions profondes qui peuvent vous ramener jusque dans votre enfance, jusque dans des mémoires très anciennes qui veulent se libérer. Car sachez bien que lorsque la maladie frappe à votre porte, elle vous parle de libération. Et non pas qu'elle veut vous accabler, elle veut vous annoncer qu'il y a une partie de vous qui cherche la libération. Alors nous vous dirons si dans les hôpitaux, il y avait des gens pour vous écouter, pour vous aider à travailler dans votre corps émotionnel et voir où sont les blocages dans le corps mental. Alors vous pourriez guérir beaucoup plus rapidement. Et souvent, une simple maladie est, nous dirons, déjà la voie qui peut vous conduire à une clé très importante, une clé de solution de problèmes millénaires. Alors, si la maladie vient frapper chez vous, remerciez-la et dites-lui, je vais faire les démarches pour aller travailler sur mon corps émotionnel et mon corps mental pour me libérer. Je sais que je peux me libérer.
Comment faire pour être conscient de la signification des épreuves, des expériences que l'on vit?
Nous vous dirons d'abord, si vous n'êtes pas habilité ou vous ne vous sentez pas habilité pour aller vous asseoir dans le silence, dans la chambre haute, avec cette épreuve, pour l'interroger, pour reconnaître quelle est l'émotion ou quelle est la partie du mental ou des vieux codes qui sont enregistrés ou de toute cette encapsulation dans vos corps, nous vous dirons alors, faites-vous accompagner par des professionnels qui sont dans l'amour et qui sont dans la conscience. Alors, eux, ce qu'ils vous offriront, c'est l'amour. Sachant que l'amour est l'énergie qui guérit, vous aurez le loisir de pouvoir l'apprendre et ensuite de suivre le filon qui vous conduira jusqu'à la racine de cette souffrance qui est très souvent logée dans l'ego diviseur. Alors, nous vous dirons à ce moment-là, vous pourrez vous guérir vous-même. Ce ne sont pas les autres qui ont le pouvoir de vous guérir, mais vous, vous avez le pouvoir de vous guérir en accueillant l'amour qui vient de d'autres et en prenant l'amour que vous avez pour vous-même.
J'ai fait toutes sortes d'exercices pour mon mieux-être, tels que qigong, méditation, visualisation, exercice physique, etc. Il me semble que faire ces choses, c'est me donner de l'amour. Pourtant, je trouve ça difficile et même pénible à l'occasion. Je me demande pourquoi je ne trouve pas de plaisir à me donner ainsi de l'amour. Je vous demande de m'éclairer pour m'aider à y voir un peu plus clair. Merci.
Est-ce de l'amour ou est-ce la chambre aux tortures? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué d'exiger de vous de devoir faire ceci, devoir faire cela, devoir faire tel exercice, telle visualisation, telle... Nous vous dirons cesser de vous torturer. C'est tellement simple, vous aimez. Vous aimez, c'est peler des pommes de terre quand vous pelez des pommes de terre. C'est marcher sur la rue quand vous marchez sur la rue. Vous aimez, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est vous accueillir tel que vous êtes dans le moment présent. Si vous êtes dans la peine, vous vous accueillez dans la peine. Si vous êtes dans la joie, vous vous accueillez dans la joie. Si vous êtes dans l'émerveillement, vous vous accueillez dans l'émerveillement, en ne pensant pas que vous êtes plus quand vous êtes dans l'émerveillement que vous êtes lorsque vous êtes dans la peine. Vous êtes toujours la même vibration, vous êtes le divin qui s'actualise. Alors nous vous dirons, cessez de vous torturer.
Comment faire pour ne pas juger toutes les expériences que l'on vit?
En sachant que ces expériences sont la voie de sortie. Quand vous comprendrez que toutes vos expériences vous conduisent à la voie de sortie, vous n'en jugerez aucune. Vous les jugez parce que la culpabilité vous habite. Et la culpabilité, nous vous dirons qu'elle vous a été vendue à un sou pour une tonne. Alors, vous en avez acheté beaucoup parce que dans ce temps-là, vous aviez beaucoup de sous noirs. Mais maintenant, vous n'avez plus besoin de cette onde de culpabilité. Toute expérimentation est là pour vous permettre de vous connaître. Nous vous dirons, bien sûr, vous pouvez répéter la même expérimentation 1000 fois. Si vous ne tirez pas objet de votre... Si vous ne tirez pas profit de cette expérimentation, si vous ne vous arrêtez pas, ramenez à vous-même cette projection extérieure et dire, qu'est-ce que tu viens m'apprendre? Quelle sagesse viens-tu me montrer? À quel degré de conscience veux-tu me conduire? Alors, nous vous dirons, vous avez la réponse à l'intérieur de votre expérimentation, mais viendra le temps où vous comprendrez que l'éveillé n'a plus besoin de cela.
Et sur l'autre volet de cette question, comment puis-je, c'est-à-dire comment faire pour ne pas se juger à travers les expériences que l'on vit?
Nous vous dirons, c'est la même question. Mm-hmm. Ne pas vous juger en vous disant que toute expérience est parfaite. Toute expérience est parfaite. Vous vous brisez une jambe, eh bien vous brisez une jambe, c'est parfait. Vous direz, eh bien ce n'est pas cela que j'ai appris. Vous ne savez pas, vous qui parlez, ce que veut dire se briser une jambe. Nous vous dirons, vous brisez une jambe, si vous le faites, c'est le plus parfait. C'est que votre jambe veut vous arrêter. Elle veut peut-être que vous preniez des moments de silence qui vous interpellent depuis longtemps et que vous ne voulez pas prendre. Alors nous vous dirons, votre conscience supérieure qui vous téléguide va toujours vous créer les chocs nécessaires jusqu'à ce que vous soyez dans l'éveil. Et choc après choc, vous serez bien forcé de vous laisser attraper par l'amour. Car l'amour vous poursuit. Il vous poursuit depuis longtemps. Mais maintenant, il est sur vos talons. Surveillez-vous.
Quand l'unité internationale installera pour la planète et surtout pour le Québec la reconnaissance, c'est souligné ici, mondiale, de cette nouvelle monnaie d'échange?
Lorsque les êtres humains se seront reconnus à l'intérieur d'eux-mêmes comme des dieux. Alors nous vous dirons, ne courez pas trop vite après cette monnaie d'échange. La seule monnaie d'échange véritable, si elle n'est pas doublée de l'amour et de la conscience, elle ne peut être qu'une illusion.
J'ai fait un cours de thérapie, deuxième profession, hypnose. Dois-je ouvrir un bureau et cela aidera-t-il les gens?
En avez-vous des doutes? Si vous avez des doutes, comment pourrez-vous aider les gens? D'ailleurs, vous n'êtes pas là pour aider les gens. Vous êtes là pour accueillir des gens qui viennent s'aider eux-mêmes. C'est très différent. Dans l'un, vous êtes dans l'habit du sauveur. Dans l'autre, vous êtes dans l'habit, nous dirons, de celui qui est dans le service pur. Alors, si vous avez fait ces études, et que vous les avez faites pour vous-même, pour arriver à vous expérimenter, en sachant que chaque fois que vous attirerez un client, vous attirerez une partie de votre projection, une partie de vous-même qui veut être transformée. Alors, à ce moment-là, vous serez ouverte à votre propre transformation, et ce bureau aura pignon sur rue. Mais si vous le faites pour sauver les autres, si vous le faites pour combler un manque financier, nous vous dirons, il se peut fort bien que votre bureau reste vide.
On a associé épreuve seulement au corps émotionnel. Est-ce bien ainsi?
Nous vous dirons que l'épreuve est dans tous les corps. Le corps physique ressent l'épreuve. Nous vous dirons, lorsque vous avez peur et que vous tremblez, ce n'est pas votre corps émotionnel qui tremble, c'est votre corps physique. Lorsque vous avez une douleur dans le plexus solaire à cause d'une grosse colère qui voudrait bien se manifester, nous vous dirons, ce n'est pas votre corps émotionnel qui ressent, c'est votre corps physique. Mais votre corps émotionnel participe ainsi que votre corps mental. Ces trois corps sont interreliés, ils sont soudés, ils ne peuvent pas être séparés. Lorsque vous avez une angoisse, nous vous dirons, cela se produit dans le mental, vient chercher l'émotion et se vit dans le physique. Cela vous vole du sommeil, par exemple, ou vous crée des tensions physiques, ou vous crée du stress. Alors nous vous dirons que tout cela est interrelié. Cependant, le corps émotionnel permet davantage de manifester un blocage. Très souvent, lorsque vous avez un blocage dans le corps physique, si vous prenez la peine d'aller voir, vous allez voir que, à l'intérieur de cette douleur ou de cette plaie ou de cette manifestation physique, il y a une émotion qui est cachée, soit de la peine, soit de la colère, soit, nous dirons, de l'inquiétude, soit la mémoire de quelqu'un qui est parti, que vous ne voulez pas laisser partir, ou ainsi de suite. Alors, sachez bien que le corps émotionnel participe, mais sachez que lorsque l'émotion se vit, le mental ne dort jamais.
Lorsqu'une autre personne vit une épreuve, comment faire pour lui témoigner de la compassion et ne pas tomber dans le piège du sauveur?
Nous vous dirons, ça c'est une question intéressante, c'est que vous vous posez une vraie question. Vous êtes capable déjà de voir à l'intérieur de votre énergie qu'il y a une différence entre le sauveur et celui qui est dans la compassion. Celui qui est dans la compassion est celui qui est dans le non-jugement face à la personne qui est en face de lui, qui peut lui tendre la main si cette personne a besoin pour le moment d'une main pour traverser le précipice qui est là et qui est difficile pour elle de traverser. Mais nous vous dirons, le regard de compassion sait que l'épreuve est juste. Alors nous vous dirons, il ne tombe pas dans la pitié. Alors que le sauveur, lui, est dans la pitié, nous vous dirons, la compassion est dans une forme de reconnaissance à l'énergie de permettre à cette personne de traverser une étape qui lui sera, nous dirons, qui pourra transmuter son énergie de souffrance en énergie de sagesse. C'est le discernement qui vous apprendra ceci. Et vous saurez que vous êtes sauveur lorsque vous ressentirez l'émotion de la personne. Il y a des gens, par exemple, qui sont thérapeutes et que lorsque quelqu'un vient les voir et qu'ils ont mal à l'estomac ou à la jambe ou à la cuisse ou à la hanche, retrouvent cette même douleur dans leur propre corps. Nous vous dirons, à ce moment-là, c'est qu'ils ont une énergie poreuse et qu'ils sont dans l'énergie de sauveur. Alors, ils captent la souffrance de l'autre et ils la mettent sur leur dos. Celui qui est dans la compassion ne porte pas le fardeau de l'autre, mais il accompagne celui qui porte un fardeau.
Que pensez-vous du besoin de se protéger pour ne point vivre d'épreuves?
Nous vous dirons, vouloir vous protéger parce que vous avez peur de l'épreuve, c'est déjà sournoisement dire que vous avez la peur de l'épreuve. Et si vous avez peur de l'épreuve, vous allez attirer à vous l'épreuve. De quoi voudriez-vous vous protéger si l'épreuve est un chemin qui vous permettra de guérir? Alors nous vous dirons, au lieu d'avoir cette fausse conception de vouloir vous protéger de l'épreuve, vouloir vous protéger des accidents, vouloir vous protéger des gens de l'astral, vouloir vous protéger de ceci et de cela, si vous mettez autant d'énergie à uniquement rester dans le présent, à vous accueillir et vous aimer tel que vous êtes, nous vous dirons que vous entendrez très bientôt le flutio.
Pourquoi chez plusieurs, nous avons tant de difficultés à s'aimer?
À cause de la blessure fondamentale de l'être humain, qu'il est un être divisé et qu'il n'a pas l'amour, qu'il est coupé de l'amour. Mais lorsque vous réaliserez que vous êtes vous-même l'amour, alors vous n'aurez plus besoin de cette souffrance et de cette douleur. Commencez à affirmer ceci. Je suis l'amour et je suis la conscience et je suis la vérité. Lorsque Jésus disait de lui-même, « Je suis la voie, la vérité et la vie », il ne disait pas cela pour que les gens le suivent parce qu'il était la voie. Il disait cela pour que chacun puisse le dire de lui-même. Je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie, je suis l'amour et je suis la conscience. Et alors nous vous dirons, à force de le dire, cela deviendra votre création et vous serez des éveillés.
Y a-t-il un autre enseignement avant de quitter la forme?
Nous vous dirons, l'amour est proche. L'amour vous tend la main. L'amour est au-dedans de vous. La conscience est proche. Elle vous tend la main. Elle est au-dedans de vous. Mais l'amour et la conscience mûrissent, s'épanouissent et émergent dans le silence de l'être. Non pas un silence qui ne soit qu'un silence extérieur, quoique le silence extérieur puisse favoriser le silence intérieur qui est le silence du mental. Alors, lorsque le mental vient vous harceler, mettez tout le focus sur l'action que vous êtes en train de faire, fût-il l'action le plus simple, et progressivement, le mental finira par se calmer, par se taire, et il laissera la place en vous à la paix, à la sérénité, à, nous dirons, une paix que rien ne peut atteindre et que rien ne peut détruire, une paix qui est si profonde que Dieu lui-même y habite. Alors que cette paix, que cette sérénité soit avec vous et sortez votre flutio pour vous éveiller. Et lorsque vous serez éveillé, vous éveillerez trois de vos frères, qui chacun en éveilleront trois, et nous vous dirons ce sera ainsi à l'infini dans l'univers. Que la race humaine soit bénie et que le verseur d'eau fasse couler en vous sa lumière et son amour. Amen.
Alors nous remercions le chariot blanc, ce reflet de notre supraconscience. Et nous vous remercions pour cette collaboration. Suivant le besoin, veuillez, s'il vous plaît, procéder.